Bayou.
Actualité,
culture,
éducation,
santé,
environnement,
Zoom. C'est l'interview de la rédaction.
Il est des noms qui mettent la puce à l'oreille lorsqu'on les entend. Peut-être remontent-ils à la période de l'école. Peut-être les a-t-on vus passer dans les médias, dans des livres ou dans la bouche d'un ami. Niki de Saint-Phalle, Anna Politkovskaya, Amelia Earhart, ces trois noms de femmes vous disent peut-être quelque chose. Sophie Bizet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conteuse et pour vous, ces trois noms résonnent tout particulièrement. Vous avez décidé de rapprocher les destins de ces trois femmes que vous considérez comme vos héroïnes, des héroïnes que vous qualifiez de passionnément engagées dans leur aventure humaine. Votre mode d'expression à vous, c'est le conte. C'est donc sous forme de conte que vous allez raconter les récits de vie de ces femmes. Ce spectacle s'appelle « Si vaillante » et vous le jouerez le vendredi 11 mars à la médiathèque d'Oust. Pour commencer, je vais vous demander de nous parler de ces femmes, de façon à ce que l'on cerne un peu les personnages. On commence par qui ?
Alors, dans mon spectacle, je commence par Amelia Earhart, qui est la sportive. Après, ce n'est pas par ordre chronologique, puisque celle dont je parle en second, c'est Anna Politkovskaya, qui est plus contemporaine que Niki de Saint-Phalle, en fait. Mais c'est peut-être pour terminer sur une note, moins triste, parce que le destin de Anna Politkovskaya, c'est pas anodin, puisqu'elle a été assassinée.
On peut commencer par parler d'elle.
Eh bien, allons-y.
Anna Politkovskaya, journaliste
russe,
décédée en 2006, voilà. Décédée assassinée, vous venez de le dire.
C'est ça, donc elle, elle a eu le souci de la justice, vous voyez. Même petite fille, déjà, elle défendait ses camarades si elle estimait qu'il y avait une injustice, etc. Après, elle fait des études de journalisme et c'est là qu'elle rencontre Alexandre Politkovski qui va lui donner son nom. Donc ce nom de Anna Politkovskaya. Donc ensuite ils se sépareront, mais elle restera pour toujours Anna Politkovskaya. Et elle écrit des articles sur des sujets sociaux et puis travaille pour un journal, un bi-hebdomadaire, Novaya Gazeta. Et là, Poutine arrive au pouvoir et il relance la guerre en Tchétchénie pour mater les républiques qui auraient des velléités d'indépendance. Et, évidemment, il ne fait pas la guerre. Hein. Pour lui, c'est présenté comme une opération antiterroriste. Et donc, Anna Politkovskaya va se porter volontaire pour couvrir cette guerre pour son journal. Elle n'est jamais allée en Tchétchénie, elle n'y connaît pas grand-chose encore, mais elle va s'y rendre plus de 70 fois durant les 7 années qui lui restent à vivre. Et elle devient, c'est elle qui va, donc une des seules journalistes qui va, par l'intermédiaire de son journal, parler de ce qui se passe là-bas, des sons commises par l'armée, puisque c'est un vrai génocide.
Oui, donc elle dénonce clairement.
Voilà, tout ce qui se passe en Tchétchénie. Et ensuite, elle reçoit des menaces de mort, mais elle continue son travail jusqu'au bout. Jusqu'à être assassinée donc à Moscou dans son immeuble en 2006.
Alors on va pas en raconter beaucoup plus pour mettre l'eau à la bouche qui voudront venir voir votre spectacle.
J'espère.
Donc d'un côté vous parlez de cette Anna Politkovskaya, mais vous parlez aussi, vous avez commencé à parler d'Amelia Earhart qui était elle, aviatrice.
Voilà, c'est une aviatrice qui est peut-être en France la moins connue des trois, mais qui en Amérique est très connue, et qui est née donc en 1897, avec un peu les débuts aussi de l'aviation. Et à 23 ans, elle va faire son baptême dans un meeting aérien, un vol qui dure quelques minutes, et là, elle sait qu'elle est faite pour ça, qu'elle est faite pour voler. Donc elle prend des leçons, elle obtient sa licence. Et elle va être choisie par une riche américaine qui finance une traversée de l'Atlantique. Donc elle va traverser une première fois l'Atlantique, mais là, elle n'est que passagère. C'est-à-dire qu'il y a un pilote et un mécanicien qui, évidemment, sont des hommes. Cette traversée va lui obtenir la gloire, mais une gloire qu'elle estime, elle, ne pas avoir complètement méritée. Puisqu'elle le dit, moi j'étais comme un sac de pommes de terre. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle a eu un rôle très très important dans cette première traversée, puisque c'est elle qui va motiver le pilote pour démarrer le vol, parce que les conditions sont... Ils partent de Terre-Neuve, et les conditions météo sont très mauvaises. Le pilote perd un peu les pédales, il se met à boire, etc. Et c'est donc Amélia qui va resserrer la cohésion de son équipe et les pousser à s'envoler pour ce qui sera donc cette traversée de l'Atlantique.
Courageuse, Amélia.
Très courageuse. Ouais, très courageuse. Et ensuite, donc, 4 ans après cette première traversée, elle va, elle, traverser l'Atlantique, mais cette fois en solitaire, et elle est aux commandes.
Ça, c'est Amélia Earhart. Il y a beaucoup de choses, j'imagine, à dire sur elle aussi. Une vie, ça ne se résume pas en 2 minutes. Mais on essaye de faire un petit peu le tour des 3 femmes dont vous parlez dans votre spectacle Si Vaillante. La 3e, c'est Niki de Saint-Phal, artiste.
Artiste, oui. Il y a eu une très grande exposition en décembre, pas décembre dernier, décembre d'avant, à Paris. Du coup, il y a peut-être... pas mal de gens qui s'intéressent à elle. C'est une figure aussi très, très engagée dans son métier, dans son art, puisque c'est quand elle découvre sa créativité, en fait, ça la sauve de la dépression, puisqu'elle est internée pour une très grave dépression nerveuse. Et là, elle se met à créer donc d'abord des tableaux et puis des sculptures, et c'est ce qui va après être sa raison de vivre et la sauver. Donc il y a plusieurs périodes dans ses créations. Il y a toute l'époque des tirs, c'est-à-dire qu'elle, sur une planche, elle fixe des différents objets et puis des poches de peinture colorée. Et ensuite, elle recouvre tout ça d'une couche de plusieurs couches de plâtre pour que ce soit uniformément blanc. Et puis, elle tire à la croche et elle tire à la carabine dessus. Donc, les balles percent les poches de peinture et ça fait saigner la peinture, en fait. Et ses tirs, donc elle va tirer elle-même, puis elle va faire tirer les gens, elle organise de grandes séances publiques de tirs. Mais pour elle, ses tirs, c'est aussi un acte militant, c'est-à-dire qu'elle tire sur quelque chose, elle tire sur l'injustice, sur la misère, sur le sida, le viol, le racisme, la pollution, les centrales nucléaires, voilà, ce sont des actes militants. Et puis, alors elle fait ça pendant 2 ans, puis ensuite elle passe à autre chose. Donc elle va créer des statues de femmes, les fameuses nanas, qui sont avec des corps très exubérants et en même temps une légèreté, on dirait toujours qu'elles dansent. Donc là, pour essayer d'évoquer ça dans mon spectacle, j'ai une partie, je dirais pas que c'est une danse, mais c'est une partie en tout cas corporelle.
C'est quelle époque, Niki de Saint-Phal ?
Niki de Saint-Phal, elle est née en 1930.
Alors, vous avez choisi de rapprocher les destins de ces 3 femmes. Qu'est-ce qui vous fascine chez elles ? Parce qu'on sent une fascination quand vous en parlez.
En fait, à l'origine d'un spectacle, souvent, il y a une question. Alors, une fois que le spectacle est fait, en général, on n'a pas complètement répondu à la question, mais en tout cas, on a trouvé des pistes de réflexion et un peu pour approfondir la question. Et là, moi, je me suis interrogée sur l'héroïsme. Qu'est-ce que c'est que l'héroïsme ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'héroïsme ? Est-ce que ça a un sens ? Enfin, pas l'héroïsme au sens littéraire. Hein. Parce qu'on parle aussi de héros de roman, tout ça. Non, c'était pas cet héroïsme-là. Moi, c'est l'héroïsme dans la vie. Et du coup, peut-être parce que je suis une femme, je me suis dit, eh bien, je vais chercher des femmes qui, pour moi, sont des héroïnes. Alors, il y en a beaucoup, il a fallu choisir. Et je crois que si j'ai choisi ces 3-là, c'est parce que vraiment leur engagement est allé jusqu'au bout, jusqu'à en mourir pour Anna Politkovskaya. Et Niki aussi, puisque c'est l'art en fait qui l'a sauvée. Donc, en fait, elle était vivante par son art et pas en dehors. Et puis Amélia, c'est aussi puisque en fait elle va mourir en avion dans sa dernière tentative de record qui est un tour du monde. Et elle avait dit, moi, j'ai pas du tout envie de mourir, mais si je meurs, je veux que ce soit dans mon avion.
Mais alors, ces femmes, ces trois femmes, vous les connaissiez avant ce projet d'héroïsme, j'imagine, ce projet sur l'héroïsme ?
Oui, Anna Politkovskaya, je la connaissais. Nikita Fall aussi, parce que je suis allée voir donc, cette très belle exposition. En fait, j'ai commencé le spectacle par Amelia Earhart, c'est-à-dire qu'au début, j'ai raconté, c'était un court spectacle qui durait une demi-heure, je racontais sur son destin, sa vie. Puis ensuite, sont venus les autres.
Je vous propose, Sophie Bizet, qu'on fasse une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après.
Merci.
Chers auditeurs et auditrices, vous êtes toujours sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fé. Je suis en compagnie de Sophie Bizet. Sophie Bizet qui est conteuse et qui nous parle du spectacle qu'elle va jouer très prochainement, les 11 et 12 mars principalement, mais aussi le 20 mars. Le 11 mars, ce sera à la médiathèque d'Oust-sur-Scie. Le 12 mars, ce sera à la salle des fêtes de Puy-Saint-Martin. Et puis le 20 mars, un petit peu plus loin, à Montbrison-sur-Lèze. Ce sera sur réservation cette fois, mais on en parlera en fin d'émission. Un spectacle qui s'appelle « Si vaillante », où vous retracez les récits de vie de trois personnes, de trois femmes que vous considérez vraiment comme des héroïnes. Amelia Earhart, Anna Politkovskaya, c'est pas facile le russe, et Niki de Saint-Phal. Vous avez choisi ces trois personnages-là pour en parler dans votre spectacle, pour voyager à travers leur vie. Pourquoi elles et pas d'autres ? Parce que j'imagine que vous en avez rencontré d'autres, des destins de femmes héroïques.
Oui, j'en ai rencontré d'autres, mais vous savez, dans la vie, les choses ne sont jamais figées. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, je ferai un spectacle sur une autre. En fait, à l'origine, je voulais faire un spectacle sur les femmes pirates. Et j'avais commencé un peu à travailler là-dessus. Et puis, il y a une très grande conteuse qui s'appelle Nadine Walsh, qui est d'origine québécoise, qui a fait un superbe spectacle sur les femmes pirates, qui s'appelle, je crois, Femmes pirates ou Crise de foi, quelque chose comme ça. Du coup, bon, je me dis, c'est pas la peine d'aller rajouter des mots sur ce qui a déjà été si bien dit. Et ma fille m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas sur les aviatrices ? En fait, en plus, moi, je suis plutôt portée vers l'air que vers la mer. Je ne suis pas très... Oui, je n'irai pas faire du bateau pendant des jours, ça ne me dit rien. Et par contre, j'ai fait du deltaplane, l'idée de voler me plaît bien. Enfin, c'est un univers qui est peut-être plus le mien que l'univers maritime. Donc ma fille m'a donné, c'était un truc qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier. Vous savez, ces genres d'albums des jeunes où il y a à la fois une page sur différentes personnalités de l'histoire et puis des petites bandes dessinées, des petits mots croisés, différentes choses. Et là, il y avait donc une page sur Amelia Earhart. Et tout de suite, j'ai été, c'est ma sœur quelque part, j'ai été conquise par sa vie, par sa personne, par ce côté pétillant qu'elle a, et puis cette énergie indomptable. Et du coup, je me suis plongée sur elle. Alors, il y a beaucoup de livres en anglais, parce qu'elle est américaine connue aux États-Unis. Il y a une grosse biographie en français. Voilà, donc je suis plongée là-dedans et j'ai créé ce premier volet que j'ai présenté tout seul. Je l'ai joué sur le marché de Bordeaux dans le cadre du festival Les Nouvelles du Conte. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de le jouer, ça c'était assez émouvant, au Québec. Parce que je suis allée à un festival de contes dans un endroit qui s'appelle Trois Pistoles. C'est un festival assez incroyable. Et j'ai présenté ça donc du bon côté de l'Atlantique, je dirais, puisqu'elle est partie de Terre-Neuve pour faire sa traversée. Voilà, donc c'était assez, c'était une belle occasion de présenter ça de part et d'autre de l'Atlantique.
Alors, quelles autres femmes sont passées à la trappe ?
Il y a eu Margaret Bourke-White, qui est une des premières femmes reporters de guerre, je dirais. Il y a aussi une indienne pour laquelle j'avais beaucoup de tendresse qui a créé un mouvement qui s'appelle le gang des saris roses pour réagir contre l'oppression des femmes dans les campagnes où vraiment elles sont complètement opprimées. Et voilà, donc elle a appris à lire et puis elle a monté donc tout un mouvement d'action politique. Il y a eu aussi Alexandra David-Neal ou Artemisia, donc qui serait la première femme peintre professionnelle à une époque où les femmes ne pouvaient même pas acheter des couleurs. Et donc elle a épousé un peintre pour pouvoir acheter du matériel et peindre. Et après, elle a été reconnue comme peintre et donc elle a réussi à une époque où les femmes n'avaient pas de profession.
Alors, aborder l'engagement de femmes, c'est une façon à votre façon, c'est une manière à votre façon, à vous et à votre échelle de lutter pour le droit des femmes. C'est un peu votre engagement en tant que femme, à vous. Vous le considérez comme ça ?
Oui, je pense qu'on a, je dirais qu'on a chacun sa place, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait non plus pour brandir des étendards, donc il faut trouver sa propre façon de s'engager pour les causes qui nous paraissent importantes. Vous savez, il y a une histoire que j'aime bien, c'est, je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter, elle n'est pas longue. C'est le léopard qui cherche la tortue pendant des jours et des jours. Il a envie de manger de la tortue et puis un jour enfin il la trouve. Elle lui dit, tortue, je vais te manger, très bien. Et la tortue lui dit, mais laisse-moi un peu de temps pour me préparer, si tu veux bien. Bon, le léopard dit d'accord. Donc la tortue se met à s'agiter, à se rouler dans la poussière, à piétiner et à faire le maximum de mouvements. Le léopard lui dit, mais c'est comme ça que tu te prépares à être mangé. Moi, je pensais que tu allais plutôt prier ou... Et la tortue lui dit, tu vois, les traces que j'ai laissées dans la poussière, là, peut-être d'autres viendront après moi, ils les verront. Moi, je n'ai pas, la force de m'opposer à toi. Mais ceux qui trouveront ces traces, eux, peut-être, ils l'auront. Et ça leur donnera le courage de te battre. Et peut-être, ils triompheront. Et voilà, parfois, on n'est pas là pour combattre le grand léopard. On est juste là pour laisser des traces dans la poussière.
Oui, donc c'est votre façon, à vous, de laisser des traces.
Ben, j'espère.
Alors, vous avez un peu, enfin, d'une certaine façon, transposé des histoires, des récits de vie en quelque chose de conté, oui. Des récits de vie contés. Comment ça se passe ? Comment on fait ? Parce que ça ne doit pas être facile d'aller déjà se documenter sur les personnes, sur les personnages, les personnes dont vous parlez, mais ensuite bah de le raconter.
Bah, je dirais qu'il y a deux phases. Il y a la phase de nourriture et après le moment de la création proprement dite. Mais pour les contes, je pense que je travaille de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, il faut que ça devienne comme un propre souvenir. Puisque finalement, quand on raconte, on raconte ce qu'on a vu, on raconte des choses dont on est témoin. Je sais pas, vous assistez à un accident dans la rue et après vous dites, ah là là, j'ai vu ça, c'était terrible, il y a la voiture qui est arrivée. Puis bon, vous voyez, cette vérité-là de la vécu, c'est ça qu'on essaie toujours de retrouver. Et là, donc je me suis beaucoup documentée, j'ai lu tout ce que j'ai pu sur chacune pour les connaître, pour que ce soit comme, voilà. D'ailleurs, avant de faire mon spectacle, j'essaye toujours... je travaillais avec une femme qui est très remarquable, qui s'appelle Catherine Contour, qui a créé une méthode d'hypnose pour la création artistique. Et donc, j'essaye toujours, avant mon spectacle, de convoquer mes trois héroïnes pour qu'elles soient avec moi sur la scène. Et c'est cette... Voilà. Une fois qu'on s'est documenté, on oublie tout, je dirais. Et puis, là, je commence à me le raconter pour moi. Vous voyez, je travaille d'abord à l'oral, c'est-à-dire je mets des mots, alors c'est un brouillon, hein, et ensuite donc il y a un moment effectivement où je passe par l'écriture, mais ça vient après, quoi. Donc j'écris une première version et puis après je re-raconte et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont enlevées, parce que le problème c'est ça aussi, c'est de choisir qu'est-ce qu'on va garder. Donc là j'ai été aidée par un grand conteur qui s'appelle Jihad Darwish. Je crois qu'il est très très
connu. Aux Nouvelles du Conte.
Oui, voilà, il est venu aux Nouvelles du Conte, il a fait une nuit des contes, il est d'origine libanaise. Et pour moi, c'est vraiment. Déjà, c'est un excellent conteur, en plus, c'est un formateur formidable. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et j'ai commencé à lui envoyer un peu, et puis on a travaillé, voilà, il m'a aidé un peu à mettre en forme ce spectacle et à sacrifier justement. Voir qu'est-ce qu'il fallait garder, parce que moi, c'est vrai, je les aime tellement que ça m'était difficile de couper certains passages, d'enlever certaines choses, de ne pas dire certaines choses qui me plaisaient, mais qui n'étaient peut-être pas essentielles. C'est toujours l'idée d'aller à l'essentiel, en fait.
Mais ces trois femmes, est-ce qu'elles se croisent ? Est-ce qu'elles se rencontrent dans votre spectacle ?
Non, elles ne se rencontrent pas.
Ça aurait été un tout autre spectacle, alors.
Oui, d'imaginer des dialogues ou des trilogues, ça existe.
Je sais pas.
Non, je parle. Mais par contre, là, je travaille sur un nouveau spectacle où ce sera différent. Parce qu'il y aura. Ça va mêler un récit de vie, un conte et une collecte que j'ai faite, des récits que j'ai collectés. Et là, ce sera. Les fils sont entrecroisés, en fait. Dans ce spectacle-là, qui tourne sur le thème du coma.
Ah oui, d'accord.
Voilà, ouais.
Vous êtes en train de travailler dessus.
Oui, là, je suis en train de travailler dessus, oui.
Donc, rien n'est encore fixé.
Non, tout à fait. J'en suis encore à la phase orale.
Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'histoire de la tortue et du léopard. C'est ça,
ouais.
C'était un léopard. Hein. Mm. Ouais. Ça donnait un élément de réponse à la question que je vais vous poser maintenant. Pourquoi est-ce qu'il faut raconter des histoires, à votre avis ?
Ah, bah, je vais faire une conférence à Pont-de-Barret, là, dans le cadre du Ciboulot, justement, où je vais essayer d'explorer des pistes. Pourquoi il faut raconter des histoires ? Je pense que chacun a sa propre réponse. Hein. Peut-être pour rester vivant. Enfin.
Vous pouvez peut-être nous parler rapidement du Ciboulot. Je crois que c'est un week-end au quai à Pont-de-Barret. Je crois que c'est le week-end du 18-19 mars ou 19-20 mars.
Oui, c'est ça. C'est deux jours de conférences. Alors, il y a des conférences extrêmement pointues, hein, puisqu'il y a Michel Pastoureau qui vient parler du gris. Et moi, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est une conférence, comment dirais-je, pas vraiment une conférence en fait, plutôt une causerie. Voilà.
Ouais, une causerie.
Une causerie, d'accord. Autour de, aussi qu'est-ce que c'est qu'un conte par exemple, est-ce qu'une histoire, qu'est-ce qu'il y a une différence entre un conte et une histoire, est-ce que toutes les histoires sont des contes
Ouais. Voilà. Sachant voilà, que le thème de ce week-end-là, donc 19-20 mars, au quai à Pont-de-Barré, c'est le ciboulot. Donc il va y avoir plein de choses autour du ciboulot. Quoi. C'est très ouvert, Radio Saint-Ferréol sera là aussi.
Ah, super, très bien.
Alors, merci beaucoup Sophie Bizet d'être venue dans le studio de Radio Saint-Fé. On va quand même rappeler les dates, les heures, les lieux pour les auditeurs qui souhaiteraient venir vous voir et rencontrer des morceaux de vie de ces trois femmes qui sont Amélia Erhardt, Anna Politkovskaya et Nikit Saint-Phal. Ces trois femmes dont vous parlez dans votre spectacle Si Vaillante. Première date, le vendredi 11 mars à 18h30 à la médiathèque d'Oust-sur-Sie. C'est ouvert à partir de 10 ans. On peut venir
oui,
à partir
oui,
de
oui,
10 ans.
Oui, 10 ans, oui.
Et la participation est libre. Vous rempilez le lendemain à la salle des fêtes de Puy-Saint-Martin. C'est à quelle heure?
C'est à 20h30, c'est organisé par la bibliothèque de Puy-Saint-Martin.
Et puis, vous reviendrez le 20 mars, un petit peu plus loin, mais toujours dans la Drôme, à Montbrison-sur-Lèze, à 17h. Je crois que cette fois, c'est payant.
Oui, c'est 10 euros et c'est sur inscription. Voilà.
Et c'est sur inscription. Est-ce que vous avez une idée, si les gens veulent s'inscrire, d'un numéro de téléphone
oui.
Ou d'une adresse mail?
Je vous donne le numéro de téléphone. 04 27 58 01 23. 04 27 58 01 23. Ou par email, aussi on peut s'inscrire, c'est contact@le22-taulignan.fr.
Merci beaucoup Sophie Bizet d'être venue dans le studio de Radio Saint-Fé.
Et merci à vous, c'est toujours un plaisir pour moi de parler de mes héroïnes préférées.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Zoom.
Le Zoom.
C'est le Zoom.
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 Oui, ça y est.
Actualité.
Culture.
Éducation.
Santé.
Environnement.
Zoom. C'est l'interview de la rédaction.